écoutez Le Monde des Ados, l'émission de la classe de 4ème 3 du collège d'Acassagne. Je serai accompagnée de mon binôme Julie. Bonjour Julie.
Bonjour Amaury, bonjour à tous. Au programme de cette émission, nous allons écouter plusieurs chroniques liées à la mondialisation. Nous ferons un voyage temporel entre le 15 et le 20e siècle. Nous parlons de New York, des migrants, des réseaux sociaux, de cinéma et de sport.
Mais tout de suite, on va vous expliquer ce qu'est en gros la mondialisation avec Kaoutar et Ofran. Bonjour les filles.
Bonjour, je m'appelle Kaoutar et je vais vous parler des trois étapes de la mondialisation avec ma camarade Ofran.
Mais c'est quoi la mondialisation ?
La mondialisation, c'est un phénomène qui connecte toutes les parties du monde entre elles. De l'Antiquité au Moyen-Âge, hommes et marchandises circulaient déjà entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. La mer Méditerranée était au cœur des échanges commerciaux, mais on ne pouvait pas encore parler de la mondialisation. Les Européens faisaient venir des marchandises d'Asie, comme la soie, les épices et les pierres précieuses. Ils faisaient aussi venir de l'or d'Afrique. La première étape de la mondialisation commence au XVe siècle et se termine au XVIIIe siècle. Au XVe et XVIe siècle, les voyages d'exploration changent la donne. À cette époque, les moyens de transport évoluent, on perfectionne les navires comme la caravelle. La caravelle, c'est un bateau qui a des côtés plus hauts, donc qui permet d'affronter des vagues. L'énergie utilisée pour faire avancer les bateaux, c'est le vent. En 1492, Christophe Colomb traverse l'océan Atlantique et découvre une île des Caraïbes. Puis d'autres Européens explorent et colonisent l'Amérique. Là-bas, ces Européens utilisent les Amérindiens comme esclaves. Ils les feront travailler dans des plantations, sauf que les Amérindiens vont être décimés. D'une part, à cause des maladies transmises par les Européens, et d'autre part, à cause des massacres organisés par les Européens. Donc les Européens vont manquer d'esclaves, ils vont aller en chercher en Afrique. Ils les emmènent en Amérique pour les faire travailler dans des champs de coton ou de café. Ces marchandises sont amenées en Europe, où elles seront revendues. C'est le commerce triangulaire. Les trois sommets du triangle sont l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. L'océan Atlantique est au cœur des échanges commerciaux. Les ports européens situés sur la façade atlantique se développent. Les marchands européens s'enrichissent. Je laisse enfin la parole à Ofran.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer avec la deuxième étape de la mondialisation. La deuxième étape de la mondialisation commence à la toute fin du XVIIIe siècle et se poursuit au XIXe siècle. C'est l'utilisation d'une nouvelle source d'énergie qui va tout changer. En effet, en 1776, James Watt met au point la machine à vapeur. Cette machine constitue une des plus grandes innovations.
Mais au fait, comment fonctionne cette machine ?
On fait brûler du charbon qui va chauffer de l'eau. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur. Cette vapeur actionne des rouages et fait tourner une grande roue. Cette roue est capable de mettre en mouvement les rouages d'autres machines.
Merci pour ces explications techniques. À présent, peux-tu nous expliquer les conséquences de cette innovation ?
Eh bien, on peut dire que l'invention de la machine à vapeur a permis l'industrialisation de l'Europe. Jusqu'au XVIIIe siècle, on fabriquait tout à la main dans de petits ateliers. À partir du XIXe siècle, on construit des usines parce qu'on a besoin de beaucoup de place pour installer des machines qui fonctionnent grâce à la vapeur. Concrètement, l'industrialisation va permettre de produire en plus grande quantité et plus rapidement. Par exemple, dans les usines du Creusot, en Bourgogne, on fabrique de l'acier. Des marteaux pilons, actionnés par la machine à vapeur, forgent des rails, des pièces de locomotive ou des bateaux à vapeur. Avec ces locomotives et ces bateaux à vapeur, on peut désormais transporter des marchandises en plus grande quantité et plus rapidement. En plus, cela coûte moins cher. On assiste alors à une augmentation des échanges commerciaux dans le monde, ce qui va permettre d'intensifier la connexion entre les différentes parties du globe. C'est ainsi que l'Europe et l'Amérique du Nord entrent dans la deuxième étape de la mondialisation. Bon, je vous laisse avec Kaoutar qui va conclure cette chronique.
La troisième étape de la mondialisation débute au XXe siècle. À cette époque, de nouvelles énergies apparaissent, l'électricité, le gaz et le pétrole. Cela permet aux moyens de transport d'évoluer. Les navires ne fonctionnent plus à la vapeur, mais avec un moteur qui fonctionne avec du pétrole. Il y a aussi d'autres moyens de transport qui fonctionnent avec le pétrole, comme les voitures et les avions. Cela permet aussi aux moyens de communication d'évoluer. C'est l'apparition du téléphone. D'abord les téléphones fixes, puis le téléphone portable. C'est aussi l'apparition d'Internet. Les échanges augmentent, mais alors de manière incroyable. Les marchandises circulent beaucoup plus. Les personnes, telles que les touristes et les migrants, circulent beaucoup plus. Les informations circulent beaucoup plus grâce à Internet, au téléphone et aux médias. Enfin, l'argent circule beaucoup plus. Voilà, donc avec Ofran, on vient de vous parler des trois étapes de la mondialisation. Et maintenant, on laisse la parole à Amaury.
Merci pour votre chronique. Maintenant, prenons l'exemple d'une ville. Fatoumata, Zineb et Julie vont vous parler de New York. À vous les filles.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de New York et vous expliquer pourquoi c'est une métropole mondiale. Pour commencer, une métropole mondiale, ça veut dire une grande ville connectée. En d'autres mots, elle participe à la mondialisation.
D'accord, alors dites-nous comment New York participe à la mondialisation. Je crois qu'elle a un grand poids économique dans le monde.
En effet, elle attire des activités financières et économiques. Elle a un très grand et très beau CBD, c'est-à-dire un quartier d'affaires. Il est situé à Manhattan. Sur une photo du quartier d'affaires de New York, tu verras des gratte-ciels magnifiques faits en béton, en acier et en verre. Dans ces gratte-ciels, il y a des bureaux qui sont loués par des entreprises. On y prend toutes les décisions importantes concernant ces entreprises. On y fait des affaires, on prépare le design des objets, on réalise des pubs. On prépare le marketing, c'est-à-dire tout ce qui attire les clients et tout ce qui fait vendre.
Fatoumata, peux-tu nous expliquer maintenant comment se manifeste l'influence culturelle de New York ?
Eh bien, par exemple, il y a de grands musées qui attirent des millions de touristes, comme le MoMA.
C'est-à-dire MoMA ?
C'est le musée d'art moderne et contemporain qui est situé à Manhattan et qui a été créé en 1929. Il est connu mondialement parce qu'il est riche en œuvres de grands maîtres et que ça intéresse les gens.
Est-ce qu'il y a autre chose qui fait de New York un centre artistique ?
Ben oui, il y a un grand marché de l'art. Par exemple, le groupe Sotheby's a une salle à New York. C'est un groupe international spécialisé dans la vente aux enchères d'œuvres d'art. Et son siège est situé à Londres. Les œuvres vendues valent parfois des millions.
D'accord, j'ai aussi entendu dire que New York joue un rôle important dans la production culturelle. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Bien sûr, New York joue un rôle important dans la production culturelle. Par exemple, dans une grande rue nommée Broadway, il y a des théâtres et des salles de concert. Il y a aussi des salles où on joue des comédies musicales comme La Reine des Neiges ou Le Roi Lion.
Pour finir, on peut dire que New York reflète la mondialisation car elle s'est développée grâce au flux des migrants. Zineb ?
Effectivement, Amaury, au 19e siècle, la plupart des migrants étaient d'origine européenne. Ils ont quitté leur vieux continent d'Europe pour le nouveau continent d'Amérique à la recherche de nouvelles opportunités de travail et de vie agréable. Tout particulièrement à New York, vu qu'elle offre toutes les conditions d'une grande métropole mondiale. Puis, tout au long du XXe siècle, des migrants venus d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et du monde arabe s'installent en Amérique. C'est pourquoi, aujourd'hui, les habitants sont d'origine très diverse. C'est dû aux migrations qui ont eu lieu dans le passé. D'ailleurs, de nos jours, à New York, il y a deux fois plus de populations de couleur et d'hispaniques, et trois fois plus d'asiatiques que dans tout le reste des États-Unis. Dans la ville, progressivement, les migrants se sont regroupés en fonction de leurs origines. Prenons un exemple, le quartier chinois, nommé le Chinatown de New York, est célèbre. Il est situé au sud de Manhattan.
Eh bien, merci à mes copines Zineb et Fatoumata.
Et merci à toi aussi, Julie. Avant qu'on parle de Facebook, vous allez écouter Empire State of Mind de Jay-Z.
Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five, nigga I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's
make you feel brand new. Big lights will inspire you. Let's hear it for New York. is blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple, Eve. Caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Enfin, parlons de Facebook, ce phénomène social avec Dorian, Chrisnella et Jasmine.
Bonjour, je m'appelle Dorian, avec Chrisnella, on va vous parler de Facebook.
Salut, je m'appelle Jasmine et je vais vous parler de Greta Thunberg qui s'est exprimée surtout sur Twitter.
Alors, pour commencer, on va vous poser quelques questions sur le sujet.
Comment utilisez-vous les réseaux sociaux ?
Pour téléphoner.
Pour m'informer.
Quels réseaux sociaux utilisez-vous le plus ?
Snapchat et Instagram.
Instagram et Twitter.
Est-ce que vous suivez le fil d'actualité qui se trouve sur le réseau ?
Oui.
Oui.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler du printemps arabe ou de Greta Thunberg ?
Non.
Non plus.
Et bien on en parlera juste après parce que tout d'abord je vais vous parler de Facebook. Alors Facebook a été créé en 2004 par l'américain Mark Zuckerberg. C'est un informaticien et chef d'entreprise, mais à l'époque où il a créé Facebook, c'était encore qu'un étudiant à l'université de Harvard. Mais il faut dire qu'avant c'était que pour les élèves de l'université. Mais c'est qu'en 2006 que Facebook s'est ouvert au monde. Alors tout le monde peut communiquer via Facebook, s'envoyer des messages, des informations. Ça met les gens en contact, donc ça crée des réseaux. On peut dire que ça contribue à la mondialisation. Bon, après cette très courte explication, je passe la parole à Chrisnella qui va vous parler de l'utilisation de Facebook lors du printemps arabe.
Bonjour, je m'appelle Chrisnella. Ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est le moment où certains pays se sont révoltés dans les années 2000 en Afrique du Nord. Par exemple, les Tunisiens et les Égyptiens ont manifesté à partir de 2010. Je vais prendre l'exemple de la Tunisie qui était une dictature où les libertés des citoyens n'étaient pas respectées. En fait, tout est parti de faits divers. Le 17 décembre 2010, un marchand ambulant, Mohamed Bouazizi, stationne sur une place publique sans autorisation. Donc, la police intervient et lui prend ses marchandises. C'était son seul moyen pour vivre. Le 4 janvier 2011, il décide de s'immoler par le feu. Beaucoup de Tunisiens se reconnaissent dans Mohamed. C'est grâce à Facebook que beaucoup de Tunisiens se sont mobilisés pour manifester contre la vie chère et le chômage. Et ça a été le point de départ d'une vague de révolution dans le monde arabe. Bon, après cette explication, je passe la parole à Jasmine qui va vous parler de Greta Thunberg.
Greta Thunberg est une jeune Suédoise âgée de 16 ans. Elle a utilisé il n'y a pas longtemps Twitter pour alerter l'opinion sur la question du réchauffement climatique. Elle a lancé dans son pays une grève du vendredi devant le Parlement suédois pour que les parlementaires prennent réellement au sérieux le changement climatique. Je vais vous lire un extrait du tweet dont je vous ai parlé. Greta écrit ceci. « I will go on with a school strike every Friday, as from now. I will sit outside the Swedish parliament until Sweden is in line with the Paris Agreement. The grown-ups have failed us, and since most of them, including the press and the politicians, keep ignoring the situation, we must take action into our own hands. » Starting today, everyone is welcome, everyone is needed, please join in.
voici la traduction du texte que je viens de vous lire. Je vais continuer avec la grève de l'école. À partir de maintenant, je serai assise devant le Parlement suédois jusqu'à ce que la Suède respecte l'accord de Paris. Le temps presse. Les changements nécessaires sont énormes. Les adultes ont échoué et depuis, la plupart d'entre eux, y compris la presse et les politiciens, continuent d'ignorer la situation. Nous devons agir nous-mêmes dès aujourd'hui. Tout le monde est bienvenu. S'il vous plaît, rejoignez-nous. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Merci à Julie et à Maury. On vous rend la parole.
Eh bien, merci pour cette chronique, les filles. Et maintenant, parlons business. Lina et Serena nous parlent de la firme Nike.
Bonjour. Merci à Maury. En effet, nous allons parler de Nike dans la mondialisation. D'abord, un petit historique, Lina.
Bonjour. C'est parti pour un petit historique. Alors, Nike est une entreprise créée en 1971 aux États-Unis. Je pense que tout le monde connaît. Mais au cas où, c'est une marque de vêtements sportifs. Le nom Nike vient de la déesse grecque de la victoire qui s'appelle Nike. En anglais, on dit Nike. Nike est une firme transnationale. Le siège social est situé aux États-Unis. Ça veut dire que la stratégie de l'entreprise et le design, par exemple, se décident là-bas. Mais les usines sont dans les pays du Sud, comme l'Inde, le Vietnam, etc. Ensuite, ces produits se vendront dans le monde entier. En Europe, en Amérique du Nord et de plus en plus en Asie. Maintenant, je crois que Serena va vous expliquer pourquoi Nike s'est autant développé.
C'est exact. Nike s'est répandue dans le monde grâce à trois choses. La première raison est que l'entreprise s'est délocalisée. La délocalisation, ça veut dire que Nike a fermé des usines aux États-Unis pour les rouvrir dans d'autres pays, par exemple en Asie. Il faut savoir que Nike paye moins cher les employés en Asie. Donc, Nike pourra vendre les produits moins cher, donc en vendre plus et se faire plus d'argent. Ensuite, la deuxième raison est que Nike crée sans cesse de nouveaux produits pour satisfaire ses clients. On appelle ça l'innovation. Enfin, la troisième raison, c'est la pub et le placement de produits. Cela a permis d'augmenter les ventes. Le placement de produits, c'est quoi ? Par exemple, c'est quand un YouTuber va faire exprès de porter un produit Nike pour faire envie aux gens. Et en échange, il est payé par Nike.
Ah, je savais pas ça. Donc on est un peu pris pour des idiots par les YouTubers, non ?
Oui, des fois elles cachent bien leur jeu.
Mais du coup, il y a que du négatif dans la mondialisation.
Non, justement, j'allais vous en parler. Il y a aussi des points positifs. Par exemple, en ouvrant des usines dans les pays du Sud, Nike y crée de l'emploi et réduit le chômage. Mais c'est vrai, il y a aussi du négatif. Car dans les usines, les conditions de travail sont mauvaises. La plupart des employés sont des femmes, sans diplôme. Elles ont de longues journées de travail pour un petit salaire.
Merci les filles, on continue avec vous sur le chemin que parcourt un jean.
Nous allons vous parler de la fabrication d'un jean tout autour du monde. On va voir le rapport avec la mondialisation. Toi, t'en achètes des jeans ?
Bah oui, comme tout le monde et toi ?
Bah oui, qui n'en a pas ?
Eh oui, les jeans sont portés dans le monde entier et partout dans le monde. Côté fabrication, les designs sont créés dans les pays du Nord, par exemple au Royaume-Uni. Le coton est ramassé à la main, puis on fabrique la toile dans des pays comme le Pakistan, la Corée du Sud ou encore l'Italie.
Les petites pièces comme la fermeture éclair viennent de France, d'Allemagne et du Japon. Les jeans sont assemblés et cousus en Tunisie, puis ils sont vendus partout dans le monde. En tout, un jean parcourt 65 000 km.
En effet, ça fait pas mal.
Comme quoi, avant que le jean arrive dans ton armoire, il fait le tour du monde.
Mais tout ça n'est pas sans conséquence sur l'environnement. On utilise beaucoup de pesticides dans la culture du coton. Cela pollue les sols et les cours d'eau. Tout le matériel est transporté par bateau, cela pollue l'océan.
Pour fabriquer un jean, il y a une grosse consommation d'eau. Entre 5000 et 25 000 litres pour 1 kg de coton. On utilise beaucoup de produits chimiques qui sont très nocifs, comme le chlore. Ils sont rejetés avec les eaux usées des usines. Ces eaux usées ne sont pas traitées et polluent les cours d'eau et les nappes phréatiques.
Merci pour cette chronique, les filles. Maintenant, avant de passer aux migrants, nous allons écouter la musique Run the Road de Daft Punk. We'll be right back. Vous venez d'écouter Around the Round de Daft Punk. Désormais, c'est au tour de Mukhtar, Ibrahim, Dylan et Amadou. Ils vont vous parler de la migration dans le monde entier. Maintenant, je vous laisse la parole.
Bonjour, parlons des migrants. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un migrant ? Dylan, c'est à toi.
Alors, un migrant est une personne quittant son pays plus de 3 mois pour des raisons autres que le tourisme ou les loisirs.
Merci Dylan. Ibrahim, peux-tu maintenant nous dire de quel pays les migrants partent et vers quel pays ils se dirigent ?
Eh bien, voici plusieurs exemples. Les migrants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud vont vers les États-Unis. Ensuite, les migrants d'Afrique de l'Ouest et du Nord vont vers l'Europe de l'Ouest. Et enfin, les migrants d'Asie du Sud-Est, de Chine et d'Inde vont vers l'Amérique du Nord et l'Europe.
Mukhtar, quelles sont les raisons de leur départ ?
Les raisons de leur départ sont nombreuses. Tout d'abord, il y a les guerres et les persécutions qui font fuir des personnes comme en Syrie et en Afghanistan. Ensuite, beaucoup de migrants fuient la pauvreté. Ils veulent avoir accès à l'éducation, à la nourriture, à la santé et à un logement. D'autres personnes quittent leur pays pour faire des études ou parce qu'elles recherchent de meilleures conditions de travail. Et enfin, certains fuient leur pays parce que ce n'est pas une démocratie où on est libre d'exprimer son opinion. C'est le cas en Turquie, en Iran ou en Corée du Nord.
Merci Mukhtar. À présent, Dylan, parle-nous des risques que prennent les migrants.
Les risques sont nombreux. Les migrants venant d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale se noient souvent dans la Méditerranée car ils la traversent sur de petits canaux.
À présent, nous allons parler d'un migrant afghan qui a fui son pays à cause de la discrimination. Il est aujourd'hui âgé d'une 30aine d'années. Il s'appelle Enayat Akbari. Avant d'arriver en Italie, il a dû faire plusieurs étapes. Il est d'abord passé par le Pakistan, puis il est allé en Iran d'où il s'est fait expulser 2 fois. Puis il est allé en Turquie, c'est là-bas où il a entendu qu'on pouvait aller en Europe. Donc il est allé en Grèce pour enfin rejoindre l'Italie.
Si on vous raconte tout ça, c'est pour vous sensibiliser au danger des migrations. Et justement, Enayat a vécu un parcours très difficile. Au Pakistan, il a été employé par le patron d'un hôtel. Il n'était pas payé, mais il était logé et nourri. Il a ensuite vécu dans la rue pendant 2 mois, alors qu'il n'était qu'un enfant.
Puis quand il a eu 14 ans, il a contacté un passeur pour aller vers l'Iran. Mais il n'avait pas d'argent. Alors il a dû travailler pendant 4 mois pour rembourser le passeur. Ensuite, il a dû décider d'aller en Turquie. Pour ça, il a dû aller dans une chaîne de montagnes en plein hiver avec 77 autres personnes. Il n'avait pas de vêtements chauds, il avait faim, il était épuisé et il avait froid.
Certains n'ont pas survécu. Les survivants ont été amenés à Istanbul en Turquie dans un camion à double fond où il était entassé pendant 3 jours sans bouger. Pour quitter la Turquie, Enayat a embarqué dans un canot de fortune avec 4 autres Afghans. La traversée a dégénéré et un des garçons est mort noyé. Les 3 survivants ont atteint la Grèce. Une femme grecque a donné de l'argent à Enayat pour qu'il achète un billet pour rejoindre l'Italie en bateau.
Pour finir, Mukhtar, comment réagit l'Union européenne à ces flux de migrants ?
C'est vrai que l'Union européenne attire des flux de migrants. Pour les migrants, l'Union européenne est parfaite, car dans ces espaces, ils ont accès à de meilleures conditions de vie. Par exemple, les migrants espèrent trouver là-bas du travail, un logement et avoir accès à l'éducation et à la santé.
L'Union européenne crée des centres pour accueillir les migrants. En France, on les appelle des centres d'orientation ou de transit. Dans ces lieux, les migrants sont logés et nourris. C'est aussi dans ces centres qu'ils peuvent faire leur demande d'asile.
Y a-t-il des problèmes ? Y a-t-il des contraintes ?
Le problème est que tous les pays de l'Union européenne ne sont pas d'accord sur la politique à suivre. Par exemple, l'Allemagne accueille beaucoup de demandeurs d'asile. En revanche, la Hongrie ferme ses frontières et a fait construire un mur pour empêcher les migrants de passer la frontière.
Il y a 2 conséquences à tout cela. D'abord, on circule moins librement dans les passes Schengen. Les accords de Schengen ont été signés en 1985 au Luxembourg par 26 pays d'Europe. Ces accords ont été appliqués en 1995. L'espace Schengen est un espace à l'intérieur duquel il n'y a pas de contrôle ou frontières. Malheureusement, avec la crise des migrants, ce principe n'est pas toujours respecté.
Y a-t-il des pays qui ne respectent pas toujours ces accords ?
Certains pays ne respectent pas toujours les accords de Genève. La Convention internationale de Genève a été signée en 1951. Elle est là pour garantir aux réfugiés la liberté de circulation, le droit de travail et obtenir des documents de voyage. Elle interdit de renvoyer un réfugié dans un pays qui risquerait de le persécuter.
Merci à vous. Maintenant, une interview sur le sujet avec Ryan, Thierry et Skander, qui ont interviewé une bénévole.
Bonjour. Là, on va vous proposer d'écouter une interview enregistrée il y a quelques temps. On a interviewé une bénévole d'une association qui s'appelle Jamais Sans Toi. Cette association, leur objectif premier est de loger des sans-abri, mais elle accueille aussi des migrants. Et c'est ce qui nous intéresse. Il s'agissait de Marie, qui est une bénévole depuis 2 ans dans l'association. Elle nous explique comment ça a commencé et quels sont les objectifs du collectif de parents d'élèves.
Alors qu'est-ce que je fais ? Je fais pas mal de choses. La première chose, c'est qu'avec les autres parents d'élèves dans l'association, on essaie d'être attentif à voir s'il y a des enfants qui sont sans abri dans notre école et on essaie de voir comment on peut les aider.
Elle s'est rendue compte que des enfants qui étaient dans la classe de leur fille ne savaient pas où dormir ou comment manger. Puis elle nous a dit ce qu'apportait l'association. On l'écoute.
Il y avait une petite fille dans la classe de ma fille. Je me suis aperçue qu'elle dormait dehors avec ses parents. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas laisser faire ça. Je peux pas. Ça serait vraiment trop terrible que ma fille, elle ait une copine dans sa classe qui est faim, qui est froid, qui dorme dehors et qui soit autant en détresse. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça m'apporte le fait de pouvoir aller à l'école de mes enfants avec un peu un sentiment de justice. Je me sentirais pas, en fait, d'aller à l'école et de croiser toujours des gens qui sont dans des situations horribles et de me dire aussi que peut-être que les enfants, eh ben, ils pourront plus aller à l'école parce que leurs parents, ils seront tellement dans une situation de survie qu'ils pourront même plus emmener leurs enfants à l'école.
On l'a aussi demandé si les migrants qu'il a rencontrés avaient des papiers et combien de temps ils pouvaient rester si ils n'en avaient pas.
Ben, ça dépend de s'il se fait attraper ou pas et ça dépend des soutiens qu'il arrive à obtenir autour de lui, de se faire un réseau de solidarité, un réseau d'amis. Plus leur situation elle est soutenue par des personnes et des associations, et plus ils ont de chances de rester. Très souvent, c'est des gens qui sont en demande d'asile et qui sont du coup entre deux eaux. Ils ne savent pas encore s'ils vont avoir le droit de rester ou pas. Et parfois, ils ont fait une demande d'asile qui a été rejetée.
Elle a ajouté que plus les journalistes en parlent, plus on a des chances de trouver une solution. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça pour tout le monde.
Ensuite, on lui a demandé pourquoi les gens viennent. Elle nous a parlé des vendettas.
On a différents types de personnes. Des gens qui ont le droit d'être là, mais dont on ne s'occupe pas bien. Des gens qui n'ont pas le droit d'être là. Et c'est des gens, souvent, qui ne peuvent pas revenir dans leur pays parce qu'il y a des vendettas. Ça veut dire que, par exemple, si toi, tu as un conflit avec quelqu'un d'autre, on imagine que tu es en Albanie, tu as un conflit avec quelqu'un d'autre, et ben l'autre personne, elle peut décider de se venger sur toi, mais aussi sur n'importe qui dans ta famille. Donc il y a des gens qui sont en grande situation de danger, ils savent qu'il y a une vendetta, qu'on peut se venger sur eux, et du coup, mettre en sécurité leur famille, ils viennent en France.
Après, on s'est posé la question si ces gens ont des projets. Et oui, comme on va l'entendre.
Alors, ces gens, très souvent, leur projet, c'est de survivre. Leur projet, c'est d'avoir un toit, d'avoir à manger pour leurs enfants, et donc de réussir à trouver du travail. Et leur projet, c'est donc ça, leur projet, c'est de réussir à parler français, à se faire comprendre, pour pouvoir aller à Pôle emploi, pour pouvoir s'ouvrir un compte en banque, faire des démarches administratives. C'est déjà compliqué pour les gens qui parlent bien français de faire des démarches administratives. Alors, faut imaginer, quand on parle pas bien français, à quel point ça peut être compliqué et difficile, juste de demander ce à quoi on a droit.
Après, bien sûr qu'ils ont des projets, sinon ça sert à rien qu'ils viennent dans un pays où c'est moins la misère.
Tout naturellement, on lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer les choses.
Que faire pour améliorer les choses ? Bah, respecter la loi. C'est pas très compliqué. Et puis, une chose qui serait très importante pour améliorer les choses, c'est que aujourd'hui, comme le gouvernement, il veut pas vraiment prendre en main la situation, il gère l'urgence, donc il n'y a pas de prévoyance, il gère l'urgence et il paye des nuits d'hôtel à des gens. Je sais pas si vous avez déjà payé une nuit d'hôtel, ça coûte super cher une nuit d'hôtel. Et plutôt que de prévoir en avance des structures où on puisse accueillir les gens à moindre frais, et bien en fait on est dans l'urgence, on paye des nuits d'hôtel, ça coûte super cher, c'est moins bien pour les gens, ça coûte plus cher à la société, ça coûte plus cher à tous les gens qui payent des impôts. Donc c'est vraiment une très mauvaise gestion en fait de la situation des sans-abri.
La loi dit que chaque enfant qui va à l'école a le droit à un hébergement.
Enfin, on l'a demandé quel avenir il voyait pour ces gens.
Ça dépend, faut que je sois optimiste ou pessimiste. À court terme, là, je suis pas très optimiste parce que même si la loi dit que toute personne, quelle qu'elle soit, a droit à un hébergement d'urgence, mais aujourd'hui, le gouvernement, c'est le préfet qui nous l'a dit, hein, le gouvernement fait des priorités les personnes qui sont pas légalement sur le territoire français. Alors qu'elles ont droit légalement à l'hébergement d'urgence, et bien en fait on leur donne pas d'hébergement d'urgence. Voilà la situation, et ça c'est plutôt inquiétant pour l'avenir, le fait qu'on commence à faire le tri entre les gens.
Si vous voulez les contacter, il faut passer par les directeurs des écoles de vos enfants.
Merci les garçons pour cette interview. Désormais je passe le studio à Moumine et Serena, mais avant ça nous allons passer une chanson de Pierre Perret, Lily.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
C'était Lily de Pierre Perret. Merci Julie et Amoury. Bonjour à tous les amis, moi c'est Moumine et je serai avec mon binôme Serena.
Maintenant, place au groupe des JO avec Thibaut, Vincent et Alexandre.
Bonjour, nous allons vous parler des JO. Nous allons commencer par présenter les Jeux Olympiques avec Vincent. Ensuite, nous expliquerons le lien entre les JO et la mondialisation.
Bonjour, tout d'abord parlons un peu d'histoire. Les JO ont été fondés en 776 avant Jésus-Christ à Olympie par les Grecs. Leur but était de symboliser l'unité culturelle des cités, célébrer Zeus, marquait une période de trêve militaire. À cette époque, on voit que les JO concernaient seulement le monde grec. Mais, quelques siècles plus tard, en 393, les JO seront interdits par l'empereur romain chrétien Théodose. C'est en 1894 que Pierre de Coubertin crée le premier comité international olympique, ou CIO. Pierre de Coubertin prend aussi part au développement du sport en France dès la fin du 19e siècle.
Alexandre, dis-nous pourquoi les JO, de nos jours, ont une portée universelle ?
Ils ont une portée universelle parce qu'ils suivent certaines valeurs. Le but des Jeux Olympiques est de refuser toute discrimination, de promouvoir la dignité humaine, la solidarité, l'esprit d'amitié et le fair play dans le sport. Pierre de Coubertin voulait que ces valeurs deviennent universelles.
Alexandre, tu vas maintenant nous parler du drapeau qui symbolise l'universalisme de ces valeurs.
Le drapeau olympique, on le sait, est tout blanc avec au centre 5 anneaux de couleurs entrelacés. On entend souvent dire que chaque couleur représente un continent. Le vert représenterait l'Océanie, le noir l'Afrique, le jaune l'Asie, le bleu l'Europe et le rouge l'Amérique. Mais ça serait un petit peu raciste en fait, parce que ça le fait moyen, le noir pour l'Afrique, le jaune l'Asie. Disons que c'est pas top top néo cliché. Donc cette interprétation est refusée par le CIO. Celui-ci dit que les couleurs représentent les drapeaux de toutes les nations.
Vincent, explique-nous maintenant comment les JO connectent les différents pays du monde.
La connexion s'est faite progressivement. Dès 1896, il est prévu que les JO se passent sur les 5 continents. Mais ce n'est pas le cas au départ. En 1896, seuls 14 pays ont participé aux JO d'Athènes. En 1912, avec la participation du Japon, c'est la première fois que les 5 continents sont représentés. Les 5 anneaux du drapeau prennent alors tout leur sens. De nos jours, les JO sont de grands événements mondiaux. En effet, une centaine de nations participent désormais aux JO. Par exemple, pour les JO d'hiver 2018, il y avait 94 pays participants. 8 pays d'Afrique, 13 pays d'Amérique, 20 pays d'Asie, 50 pays d'Europe et 3 pays d'Océanie.
Maintenant, Thibaut va nous parler des flux de capitaux liés aux JO. Alors Thibaut, combien coûtent les JO? Dans quoi investissent les pays hôtes?
En 1988, à Calgary, les JO ont coûté 700 millions d'euros alors qu'ils avaient prévu d'en dépenser seulement 300 millions. En 2014, à Sochi, les JO ont coûté 36 milliards d'euros alors qu'ils avaient prévu d'en dépenser seulement 9 milliards. Tout cet argent sera construire des stades, des piscines, un village olympique pour loger les athlètes et leur staff. Tous ces investissements permettent aussi au pays de développer les infrastructures de transport comme les routes et les aéroports. Quand les JO sont finis, la ville est donc plus attractive pour les touristes.
Pour finir, il faut savoir que les JO reflètent les inégalités entre les pays. Thibaut va nous donner quelques exemples.
Pendant longtemps, c'était des pays développés qui accueillaient les JO. Ainsi, en 2000, les JO ont été accueillis par les Australiens à Sydney, en 2002 par les Américains à Salt Lake City et en 2004 par les Grecs à Athènes. Mais progressivement, les pays émergents commencent à se faire une place. Par exemple, les JO d'été de 2016 ont été célébrés à Rio de Janeiro, au Brésil. Ces Jeux olympiques d'été sont les premiers à se dérouler en Amérique du Sud. Ce sont les troisièmes à se dérouler dans l'hémisphère sud, après ceux de Melbourne en 1956 et ceux de Sydney en 2000. Il s'agit aussi des premiers Jeux olympiques à se dérouler dans un pays lusophone, c'est-à-dire de langue portugaise.
Merci les gars. À présent, le foot et la mondialisation avec Skander, Ryan et Thierry.
Rebonjour. Mon groupe et moi, nous allons vous parler du football dans la mondialisation, surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Tout d'abord, il y a différentes fédérations. Ensuite, nous allons parler des événements mondiaux, puis des collaborations entre les clubs, les joueurs et les marques. Et enfin, du marché des transferts. Je passe tout de suite la parole à Skander qui va nous parler des fédérations.
D'abord, le football est un phénomène mondial parce que tout le monde y joue. Il y a 9 fédérations internationales dans le football, par exemple. L'UEFA pour l'Europe, la plus connue, la CONMEBOL pour l'Amérique du Sud, la CAF en Afrique. De plus, la Coupe du Monde est un phénomène mondial, un événement majeur. C'est l'événement le plus regardé à la télé. En 2006, elle a battu des records. Il y avait 376 chaînes qui l'ont passée à la télé autour du monde. À chaque Coupe du Monde, beaucoup de supporters se déplacent. Donc ça provoque des flux de touristes à l'échelle mondiale. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue. Il va vous parler des collaborations entre les joueurs, les clubs et les marques.
Le football est le sport le plus médiatisé dans le monde. Des grands joueurs ont des collaborations avec de grandes marques qui appartiennent à des firmes transnationales. Par exemple, Cristiano Ronaldo est en collaboration avec Nike. C'est une grande marque de vêtements de sport. Avec ce sponsor, il gagne 20 millions d'euros par an. Il y a aussi des collaborations entre les clubs et des sociétés privées. Le Real de Madrid est un club espagnol. Il est en collaboration avec Fly Emirates, qui est une grande compagnie aérienne localisée à Dubaï.
En effet, le football est devenu un phénomène mondial car il y a beaucoup plus de flux d'argent et de joueurs qu'avant. Je vais parler de transfert dans le football. Un transfert est généralement l'achat d'un joueur, mais ça peut prendre la forme d'un prêt. C'est ce qu'on appelle la marge des transferts ou le mercato. Le plus grand transfert de l'histoire a concerné Neymar en 2017. Il a quitté le Barça pour le PSG pour 222 millions d'euros. Neymar est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Cela fait beaucoup parler de lui dans le monde entier. Il y a très souvent des transactions de plusieurs millions d'euros entre les clubs.
Et merci. Et maintenant, I Will Survive de Gloria Gaynor.
I just walked in to find you here with that sad look of
C'était Gloria Gaynor avec I Will Survive.
On continue l'émission en parlant du cinéma.
Bonne idée. Donc nous allons parler du cinéma et du Festival de Cannes avec Samy, Zachary et Amoury.
Mais t'es dans le groupe toi aussi, non ?
Yep.
Eh bien, l'antenne est à vous.
Bonjour, Samy. Notre chronique parle du lien entre cinéma et mondialisation. Dans une première partie, on va vous parler de l'origine du cinéma et de petits trucs techniques qui permettent au cinéma d'exister. Et dans une seconde partie, on va vous parler du Festival de Cannes. Alors, d'abord, le cinéma a été inventé à Lyon en 1895 par les frères Lumière. Ils ont inventé le kinétoscope, c'est une sorte de petite caméra. Leur premier film était muet et en noir et blanc. Ces films avaient par exemple des titres comme « La sortie des ouvrières de l'usine », « L'arrivée en gare du train de la Ciotat » ou « L'arroseur arrosé ». Le kinétoscope est remplacé par le numérique en 1999 avec la sortie de Star Wars 1 aux États-Unis. En fait, le numérique se répand rapidement dans tous les cinémas parce que le matériel coûte moins cher. En plus, les projecteurs numériques permettent une mise en place plus simple. On peut faire des copies virtuelles qui peuvent être distribuées partout et rapidement. On peut aussi les distribuer par Internet.
En quoi le cinéma est un phénomène mondial, Moumine ?
Le cinéma est un phénomène mondial de par sa capacité à toucher tous les publics de tous les pays. En effet, le cinéma n'est pas qu'européen ou américain. Par exemple, il y a Bollywood, le concurrent indien d'Hollywood, ou encore Nollywood, le concurrent nigérien. Le Nigeria et les États-Unis produisent environ 400 films par an. C'est loin derrière l'Inde qui, avec 900 films par an. Mais malgré ça, le cinéma d'Hollywood est celui qui exporte le plus. La part des films américains dans la diffusion mondiale est en moyenne supérieure à 60%.
Bonjour, c'est Zachary qui vous parle. On peut penser que le succès d'un film réside surtout dans la dose de marketing et de publicité pour assurer sa promotion. C'est le cas dans Game of Thrones, qui est inspiré d'un best-seller de George R.R. Martin. La saga du Royaume des Sept Couronnes est une série qui reflète la mondialisation, car elle passe dans 173 pays sur la chaîne HBO. Le casting est international, puisque les très nombreux acteurs viennent des États-Unis, d'Océanie, d'Amérique latine, d'Europe, etc. Game of Thrones a obtenu beaucoup de récompenses. Par exemple, le prix de la meilleure fiction dramatique ou encore le prix du meilleur second rôle masculin. C'est Peter Dinklage qui a décroché cette récompense pour le rôle de Tyrion Lannister.
D'ailleurs, en parlant d'argent et de la série Game of Thrones, ce qui est original, c'est que les épisodes ressemblent à de petits films, car ils nécessitent des moyens financiers énormes. Ce qui fait que c'est l'une des séries les plus chères. Il a fallu 60 millions de dollars pour la saison 1 et environ 100 millions de dollars pour la saison 6, soit environ 10 millions de dollars par épisode.
Et maintenant, la seconde partie, où nous allons vous présenter un événement qui est un temps fort pour le 7e art à l'échelle mondiale. Amaury, de quel festival on parle ?
On parle du Festival de Cannes et de son influence dans le monde. Alors en fait, le Festival de Cannes, il est consacré au cinéma international et il a été fondé en septembre 1946 par Zhang Ze et Albert Sarrau, deux ministres de l'époque. C'est un événement ultra connu dans le monde, pourquoi ? Puisqu'il réunit films et vedettes du cinéma du monde entier. Beaucoup de professionnels du cinéma participent à la célèbre montée des marches du Palais des Festivals. C'est pratique pour eux car ça leur permet d'augmenter leur popularité auprès des médias. Mais il y a aussi des gens moins visibles, ce sont les têtes chercheuses, qui parcourent le monde et les festivals afin de dénicher les réalisateurs et les films prometteurs. Ensuite, des touristes viennent de tous les pays pour assister à cet événement hyper médiatisé. Pendant le festival, un jury établit un palmarès selon différents critères. Je vais vous parler des prix les plus connus pour que vous fassiez une idée. D'abord, la Palme d'Or. Elle est décernée aux meilleurs films, par exemple Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda en 2018, un film japonais. Ensuite, il y a le prix de la meilleure interprétation féminine, Sama Lieslemova, qui a décroché pour Aika, toujours en 2018. Et le dernier exemple, j'ai nommé le Grand Prix du Festival qui a été décerné à Black Landsman en 2018. C'est un film adapté d'un roman qui raconte l'histoire d'un policier noir dans les années 70 qui s'infiltre dans le Ku Klux Klan. En tout cas, tous ces films montrent une grande diversité culturelle.
Ouais, mais enfin, pendant longtemps, à Hollywood, les gens de couleur et les gays ou les transgenres n'étaient pas beaucoup représentés, voire pas du tout. Les films Disney ont été accusés d'être discriminatoires. Les héros étaient tout le temps blancs et virils, alors que les femmes avaient les cheveux longs, s'habillaient en rose et aimaient les paillettes. Genre réponse.
Mais qu'en pensez-vous de ça ?
Je pense que les gens veulent juste de la polémique. D'ailleurs, dans certains films Disney, les héros sont des filles et les garçons ont un rôle moins important. Par exemple, dans les dessins animés Rebelle ou encore Vaiana. En plus, quand je vais voir un film Disney, j'y vais surtout pour m'amuser.
Je suis pas d'accord. Dans les films Disney, il y a presque toujours une princesse. Dans la majorité de leurs films, ils attribuent les combats aux garçons et le rôle de la princesse aux filles. Leurs films font perdurer les clichés. Mais quelqu'un comme Pedro Almodovar a fait des films provocateurs comme Talon Aiguille, Tout sur ma mère, etc. Ce qui est bien, c'est qu'il dénonce des clichés.
Et voilà. voilà, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Julie et à Maury. Merci à notre assistante de prod. Hey, Ophran !
Hey !
Nous remercions également Monsieur Poirot, le proviseur, d'avoir permis au projet de se tenir. Merci aussi à Madame Jusselbrecht pour avoir piloté le projet et de nous avoir supportés. Merci à Eric et à Lola pour avoir partagé leurs compétences techniques. Et nous remercions également Madame Lambert et Madame Roman. Nous remercions encore Lola de Sol FM pour la technique. Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde. On se dit à bientôt et on se laisse avec Carmen de Stromae.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime. Comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime. Comme ça qu'on s'aime.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Hey.